Bienvenue à Sexe et Confidence.
Wow! Tu sais que je me suis fait dire
notre
qu'on parlait beaucoup de sexe.
Tu vois?
Ouais.
Ben, les gens vont être déçus. On va en parler encore tantôt. 10h01, comment ça va? Bon mercredi?
Ça va bien, je pense.
Ouais. T'es-tu heureuse?
C'est tellement une grosse question. Naturellement, rapidement, je vais te répondre oui. J'ai tout dans ma vie qui fait que je peux pas être malheureuse. Non, je suis heureuse, je pense.
T'es
en général, ouais.
C'est les hésitations qui me fatiguent. D'après moi, petit chum, il va prendre le bord bateau.
Non, mais mon chum est pire que moi là-dessus.
Il est très malheureux, mettons.
Non, mais il y a ce genre d'individus-là qui sont comme un peu platoniques. Là. Ils sont comme, ils savent pas s'ils sont heureux ou pas heureux. Ah. Non, mais dans le sens qu'ils savent qu'ils sont heureux, mais c'est... Eux autres, tant qu'il n'y a pas de problème, ils sont bien.
OK.
Mon chum est un peu de même. Il a le bonheur un peu facile. Tant qu'il n'y a rien qui vient le rendre malheureux...
Je suis un peu de même, mais je suis capable de répondre très facilement que je suis heureux dans la vie. Là,
ben oui, c'est sûr.
Ce qui est gossant, c'est d'entendre des gens qui semblent avoir tout à tes yeux pour être heureux, qui se disent constamment malheureux. Des fois, tu es dans l'incompréhension, puis tu te sens mal de dire « OK, ben moi, j'ai... »
Moi, je suis bien. Pas grand-chose.
Je suis correct.
Mais il y a tellement d'affaires là-dedans. Tu sais, la gestion d'attente, ce que tu possèdes, les finances, l'entourage. Puis il y a des gens que même s'ils sont franchement bien entourés, qui ont tout là, financièrement, la vie est belle, ils font quelque chose qu'ils aiment au quotidien, ils sont pas bien en dedans.
C'est une bonne question du pourquoi, du comment que ces gens-là changent pas du jour au lendemain.
Parce que pour toi, c'est une décision que tu dois prendre dans ce temps-là.
Ben oui! Ben oui.
J'ai l'impression que ce monde-là ne sont pas au courant, ne s'en rendent pas compte.
Ah,
ils vivent
savent.
Juste un mal-être,
ils
mettons, puis ne savent pas par où commencer.
Mais c'est la dépendance. Sans trop rentrer là, dans la psychologie à Saint-Saëns, parce qu'on n'est pas psychologue tous les mois. Mais moi, j'aime ça lire des livres sur la psychologie. Quand tu es dépendant de quelque chose... c'est difficile de quitter cette chose-là. Fait que si t'as une dépendance amoureuse, mettons, t'as constamment besoin de quelqu'un dans la vie, tu vas accepter une certaine toxicité dans ta vie, même si tu le sais qu'il est néfaste pour toi ou si tu le sais qu'elle est néfaste pour toi parce que tu veux pas être seul, parce que tu veux pas qu'elle parte. Tu vas avoir
l'impression même que plus large.
La moitié de toi-même t'a quitté. Alors que tu sais les gens qui disent ah, « ma douce moitié », je comprends si vous dites ça, c'est une façon de parler. Mais il y en a qui ont vraiment l'impression qu'ils ne sont des êtres humains
l'autre.
Qui ne sont rien s'ils ne sont pas accompagnés de quelqu'un, alors que vous êtes unique. Là,
ouais. Vous
êtes complet.
Entier aussi, c'est ça exactement. Mais je pense que c'est même plus large. Que je pense qu'il y en a, par exemple, que ça peut partir, je sais pas moi, du rejet. Ils se fient, ils se décrivent parce que les autres les décrivent, tu sais. Et puis encore là, on fait vraiment de la psychologie à deux scènes, mais moi, je m'étais déjà fait parler du principe de il y a comment toi tu te perçois dans la vie, il y a comment les autres te perçoivent dans la vie. Puis il y a des gens qui ne se connaissent pas leurs forces, leurs faiblesses, savent pas ce qu'ils aiment ou ils aiment pas d'eux autres mêmes, tu sais. Puis ils se définissent par le regard des autres. Par exemple, Yannick, tu me dirais, hey, toi, t'es vraiment bonne là-dedans. OK, ouais, je suis vraiment bonne là-dedans. Pas capable de moi-même dire si j'aime ça ou j'aime pas ça, okay. Puis si je vois vraiment que j'ai un talent ou que j'en ai pas un, tu sais.
Mais ça, c'est pas le secondaire, ça, de toujours vouloir avoir le miroir plutôt que de te regarder toi-même.
Puis je pense que c'est normal, comme passe, là.
Ouais.
C'est comme il faut que t'en sortes.
Quand t'as 30 ans, quand t'as 40 ans, quand t'as 50 ans, puis tu vis encore pour les autres, je pense qu'il faut que tu te poses des questions,
ouais.
Tu sais, si t'es
ça
pas capable
tough,
de
exemple.
Sortir chez toi sans dire « Hey, je vais être rejugé », ça doit être un enfer. Sérieusement, j'ai plein d'empathie pour vous autres, les amis. Le chum Dave qui nous écrit par texto 88-971-1021. 88-971-101 qui dit « Moi, je suis vraiment pas heureux ces temps-ci. J'essaie de voir un médecin pour mon fils de 3 mois. C'est vraiment pas évident. » On a une petite pensée pour toi, Dave.
Absolument.
Mais c'est ça, tu sais, les gens qui vivent pour les autres, mon Dieu, que ça doit être compliqué parfois, tu sais. Tu sais, tu veux rendre fier tes parents.
Oui.
Tu sais, tu veux rendre fier tes parents, puis là, ben, t'es rendu à 50 ans, puis t'as encore pas l'impression que tes parents sont fiers de toi. Ça doit être un enfer,
ben,
quand tu y penses.
Moi, je me suis rendu compte, puis petite confidence, là, mais moi, je me suis rendu compte à un moment donné que dans ma vie, si, mettons, j'avais des gens autour de moi qui trouvaient que, je sais pas, j'étais donc bien douce comme personne, tu sais. Ben, je me mettais des propres attentes envers ces gens-là à remplir. C'est-à-dire que, oh mon Dieu, Yannick, il trouve que je suis une personne qui est douce, il faut jamais que je montre que j'ai du caractère. Comprends-tu un peu ce que je veux dire?
Ouais.
Je mettais des... Quelqu'un me disait, ah, t'es tellement bonne dans telle affaire, ben je me disais, faut jamais que je déçoive cette personne-là dans telle affaire parce que lui, il trouve que je suis bonne.
C'est lourd!
Oui, c'était très lourd, effectivement.
Ouais.
Mais c'est parce qu'en même temps, tu t'en rends pas compte, tu sais, c'est tout... tu vis à remplir des attentes. Tu es performant, surperformant dans ce que tu veux faire. Tu veux l'être aussi. Fait que je pense que c'est comme une spirale dans laquelle tu ne t'entends pas jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose qui fasse que là, tout d'un coup, tu réalises. T'sais.
Mais les dépendances ne sont pas nécessairement bonnes. À part pour la Coors Light, là, à ce qu'on m'a dit. Mais les dépendances, ça n'a jamais été vraiment bon.
On a tous nos petits problèmes.
Quand tu es avec quelqu'un parce que tu ne veux pas être seul, c'est une problématique. Quand tu es avec quelqu'un parce que tu te dis, si je laisse cette personne-là, j'arriverai pas. Mes moyens financiers sont pas assez élevés pour conserver mon train de vie. Ben oui. Il y a des gens qui nous disent, ah, mais tu sais, notre génération à nous, on avait un chum à 17 ans puis on restait avec jusqu'à notre mort. Oui. Mais vous dépendiez l'un de l'autre
obligé, là.
Aussi.
C'est
là.
Ça. C'est ça.
Lui ne pouvait pas partir parce qu'il restait plus rien. La maison partait, pension alimentaire et tout ça. Puis elle ne voulait pas partir parce qu'elle se disait « Mais qu'est-ce que je vais faire avec les 10 enfants tout seul à ne pas travailler? Ça va être un enfer. » Fait qu'il restait au travers de la chicane, au travers de l'amour une fois de temps en temps, au travers des fois des moments où tu dis « Mais qu'est-ce que je crisse ici? » Mais ils restaient ensemble.
Ils travaillaient sur eux autres pour arriver à bout, là.
Mais c'est une façon de vivre.
Ouais.
Tu sais, moi, là, à partir du moment où il y a un peu de tristesse dans un couple, tu te jases, ça se règle pas. Vous pouvez continuer de vous aimer, mais d'une manière différente. Puis vous pouvez continuer de vous côtoyer aussi. Ça peut, cet amour-là, ça peut se transformer. Mais si tu restes dans une toxicité au point où la personne qui partage ta vie tous les jours, tu peux pas te séparer, mais tu la détestes.
Mais c'est ça arrive. Ça. Mais oui, mais c'est parce qu'il y a une différence entre...
Partager ton lit avec ton ennemi, pense-y 30 secondes.
C'est épouvantable. Essaie de te lever heureux après ça. T'sais. Mais il y a une différence, je pense, à pas être bien en couple pendant 6 mois parce que tu as vraiment un gros creux de vague sur lequel tu veux travailler. Puis pas être bien en couple depuis 5 ans. T'sais, je pense que quand ça fait une couple d'années que t'es malheureux, peut-être une lumière allumée. Là, t'sais, je veux dire, t'as-tu le fait ton travail, puis visiblement, t'es plus fait pour être avec cette personne-là. Là. L'êtes-vous heureux, 88-971-1021, mettons, en toute franchise, là, puis si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à le dire. Là. Et ça aussi, il y a bien du monde qui n'ose pas être franc parce qu'ils ont peur du jugement, ils ont peur du regard extérieur des autres. Fait qu'hésitez pas, je suis vraiment curieuse de savoir comment vous filez un matin.
Tu réagis comment avec ton chum de gars ou ta chum de fille qui dit « Moi, je suis pas heureux. »
Ah, moi, ça me rentre dedans, ces affaires-là.
Parce que ça m'est déjà arrivé.
Ben, je pense qu'il faut être empathique à ça. Puis
moi, j'ai pas eu le bon réflexe.
C'est quoi, t'as eu comme réflexe?
Change. Pourquoi tu changes pas? Ouais. J'ai vraiment pas eu le bon réflexe. Je m'en veux encore. C'est quelqu'un qui est encore dans mon quotidien, que j'aime bien et tout ça, mais il est encore malheureux. Mais ce soir-là, on était au Boston Pizza Saint-Nicolas. Je sais pas s'il est encore ouvert. Là.
Okay.
On était au Boston Pizza Saint-Nicolas. Il me dit, tu sais, moi, Yann, ça fait 5 à 10 ans que je suis pas heureux.
Hey, c'est long, là!
T'sais, fait que j'ai démontré comme une certaine empathie en disant « Tu veux-tu une autre bière? » Ben, c'est de même, ça fonctionne, les
boys.
Les gars. « Tu veux-tu une autre bière? » Puis regarde, la barmaid, son décolleté. Non, j'ai pas dit ça. Ah, peut-être.
Peut-être.
Mais, puis après ça, j'ai dit, mais pourquoi tu changes pas? Qu'est-ce qui t'empêche de changer? Puis dans son cas, à lui, c'était une dépendance financière. C'est-à-dire que s'il se séparait de la mère de ses enfants, ben là, c'est le 50% du patrimoine qui débarquait, parce que c'est un homme qui était marié. Il est encore marié aujourd'hui, mais il n'est plus avec la mère des enfants. Mais c'était son patrimoine qui débarquait. C'était la pension alimentaire pour les enfants.
La montagne était trop grosse.
Pour sa femme, parce qu'il n'y avait pas le même revenu. Puis là, j'essayais d'y expliquer que c'était tout à fait normal, parce que lui, c'est un homme d'affaires.
Ouais.
Donc, c'était tout à fait normal qu'elle pouvait avoir une partie de ses avoirs parce qu'ils ont choisi ensemble qu'elle reste à la maison pour les enfants. Puis ça le traumatisait bien, gros, pour l'argent. Fait qu'il restait avec la mère de ses enfants, qu'il n'aimait plus, pour pas perdre d'argent. T'imagines-tu à quel
point
c'est
lourd? En même temps, je pense que tu peux pas juger ce genre de situation-là. C'est trop fréquent, puis ça doit être excessivement difficile, pour vrai. T'sais, tu bâtis avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a tellement de deuil là-dedans, il y a tellement de peur. Puis j'ai l'impression que ces gens-là veulent juste être écoutés, en fait. Parce que souvent, quand t'es vraiment malheureux, tu sais même pas vraiment pourquoi t'es malheureux. C'est difficile de trouver, je veux dire, exactement la source. Il y a des affaires qui nous dérangent au quotidien, mais au point de te rendre malheureux. Il me semble que c'est un gros terme lourd. Il faut que ça soit là depuis longtemps, ce malheur-là, à l'intérieur. Fait que, comment tu réagis pour répondre à ta question? J'ai l'impression que ça prend juste de l'écoute, sans conseil, juste de l'écoute, à essayer de comprendre où le bobo.
Ouais.
Puis, tu sais, moi, j'admire les gens qui sont capables d'aller consulter en prévention, justement, pour pas tomber dans ce pattern-là. Parce que souvent, il est trop tard. Là. Quand t'es dans cette tornade-là, c'est dur en mot, t'as dit de t'en sortir.
Puis, tu sais, je t'entourais beaucoup d'hommes d'affaires là, dans mes connaissances, puis mes amis. Puis, ce qui me marque de ces gens-là, pour la plupart, en majorité, c'est des gens qui n'ont pas peur de repartir à zéro.
Ouais.
Puis, tu sais, dans mon cas, moi, j'ai eu comme 4 grosses séparations. Là. C'était des filles avec qui j'étais longtemps. J'ai eu 4 blondes dans ma vie. Ben, en fait, je me suis pas encore séparé de la blonde que j'ai là. Fait que j'ai eu 3 grosses séparations.
Attention, là.
Puis, à chaque fois, je me retrouvais dans un appartement vide avec un sleeping à terre et un oreiller. Puis, à chaque fois, je me disais, je le fais pour le mieux.
Oui.
Puis, ben, après ça, mon Xbox arrivait, ou tu sais, je réussirais
mais c'est tough,
je réussissais à récupérer mes affaires.
Je t'admire pour ça,
mais recommencer à zéro, c'est tu renais comme
ben
un phénix,
oui,
là.
Oui.
T'as toutes les possibilités possibles.
Puis, tu vois, tu sais jamais comment tu vas vraiment réagir. Moi, j'ai l'impression que je sauterais, puis que je resterais jamais dans une situation malheureuse, mais je me rends compte que je suis peut-être pas ce genre de personne-là, finalement.
T'es deuil? Parce que là, il faut que tu fasses le deuil de ton conjoint ou de ta conjointe, le deuil de ta famille que tu avais bâti avec ce conjoint-là ou sa conjointe-là. Tes beaux-parents, c'est tes âmes. C'est dur, l'équité.
Là. Ben oui.
Tes beaux-frères, tes belles-sœurs.
Gardes-tu contact avec
c'est
ta belle-famille?
Dur, l'équité. Oui. Ben, nous autres, oui, ben c'est sûr que certains que Fanny et son conjoint, eux autres, sont allés se partir à un restaurant aux Îles-de-la-Madeleine.
OK.
Fait que c'est plus sur Internet, là. Mais une fois de temps en temps, on se jase. À nos fêtes, là, on se jase et tout ça. T'sais, ses enfants, c'était des enfants que j'ai côtoyés quand ils étaient bébés, je les ai pris dans mes bras. Fait que tu comprends que même si je les revois 15 ans plus tard, ils font partie de ma famille. S'ils sont dans le trouble, je vais les aider.
Ouais.
Mais techniquement, ça, ils ne sont plus de ma famille. Ils demeurent les cousins et les cousines de mes enfants, mais ils ne sont plus de ma famille.
Mm.
Mais dans 15 ans, ils reviennent. Puis moi, je les ai connus bébés. Ils font partie de ma famille. S'ils ont besoin d'aide, je vais les aider. Mais je me suis toujours séparé dans le bon temps, Audrey. Je me suis jamais chicané avec mes conjoints.
Mais ça, j'ai le sentiment que ça dépend d'où tu viens aussi, tu sais, puis dans quel confort ou pas tu as été élevé. J'ai l'impression qu'il y a tellement de facteurs qui font justement que tu es à l'aise de prendre les décisions au bon moment ou pas. T'sais, tu parlais de dépendance tantôt. Il y a des gens qui ont un besoin d'amour, puis pour eux autres, c'est inconcevable de se ramasser comme tu as fait avec un matelas dans un appartement.
Il n'y avait pas de matelas.
Puis pas grand-chose.
Un sleeping bag acheté sur la tulipe. Il devait être à 25$ en rabais, là.
Mm.
Puis j'avais comme oreiller. J'avais, la première fois que je me suis séparé, ça faisait 3 ans que j'étais avec cette fille-là, Caro. Puis j'avais pour oreiller, c'était mon gilet capuchon.
T'as ton matin. Hey, c'est ridicule, hein, calé. Ça, par exemple, Yann, me dire de quoi, là, pour être la féminine dans ce show-là, là, et je laisserais jamais. Mettons, mon chum, demain, on se sépare.
Ouais.
Je laisserais jamais se ramasser dans un appartement, tu comprends, avec un coton watté comme oreiller.
Mais tu ressens pas ce qu'on ressent.
Qu'est-ce que tu veux dire?
C'est que moi, je voulais qu'elle reste dans son environnement sans vraiment stress supplémentaire. Tu sais, j'ai toujours quitté mes conjointes. C'est toujours moi qui est parti. Puis la dernière affaire que tu veux, c'est de faire mal à quelqu'un.
Mm-hmm.
Fait que tu laisses une bonne partie des choses que tu as accumulées au fil des ans avec cette personne-là pour qu'elle reste dans une certaine sécurité. Je le sais.
Ah, puis je t'admets.
Il y a plein de gars qui m'ont traité de cave, OK?
Ah non, non.
Mais au moins, j'ai réussi à récupérer ma poche de hockey dans toutes les circonstances et mon PlayStation puis mon Xbox.
Ouais.
Moi, ça bête puante.
Ben non, mais il n'y a pas une femme qui veut rester avec la poche de hockey pognée dans le garage. Ouais. Pour des vraies affaires. Mais puis j'admire ce côté-là de toi.
Ma deuxième blonde, à un moment donné, je m'en suis voulu parce que j'avais acheté un matelas très cher. Puis j'ai laissé le matelas-là. Puis 2 semaines plus tard, je me suis dit, Simonac, elle va refourrer dans ce matelas-là.
Oui, dans le tien. Comment
c'était mon matelas. Encore aujourd'hui, j'y pense. Ça fait 15 ans. 18 ans.
À petite échelle, OK? Quand j'avais genre 17 ans, je me suis séparée d'un gars avec qui j'étais depuis à peu près... Non, j'étais rendue à 19 quand on s'est séparés officiellement, mettons. Mais ça faisait un bon moment qu'on était ensemble, genre de 4 ans facile. Puis, tu sais, à cet âge-là, je veux dire, j'avais rien, Yann, là. Mais j'avais accumulé mes sous pour y acheter une saprée belle saute d'hiver, là, genre de ski, si tu veux, là, tu sais, de snow, parce qu'il voulait commencer à faire du snow. Puis bon, c'était un gars qui n'était pas dans une famille qui avait énormément de sous. Puis c'était comme mon cadeau. Fait que j'avais ramassé mon argent, puis c'est con, mais à cet âge-là, j'avais rien. Puis c'était vraiment un gros montant pour moi, là, 500$ à mettre un beau kit. Puis on s'est séparés peu de temps après. Il m'a laissé, puis dans le coin de ma fête, je suis retournée à Montréal chez mes parents. Puis j'ai repris mon téléphone, tu sais, puis je me suis mis à me promener sur les réseaux sociaux pour voir que le saut que j'y avais acheté, la première fois qu'il l'avait utilisé, c'était pour aller faire du snow avec sa nouvelle flamme. Ça faisait à peu près 3 jours qu'on n'était plus ensemble. Je peux pas dire que je comprends ton histoire de matelas à 100%, mais je me suis sentie trahie dans mon achat quand le saut d'hiver que je devais utiliser avec lui a été utilisé avec une autre fille,
tu vois. Ouais, j'ai des connaissances qui ont poussé l'audace à redemander la bague de fiançailles ou redemander la bague de mariage de la conjointe, alors qu'eux avaient tout simplement déplié. Là. Si ça appartient à ta mère, puis tu la donnes à ta conjointe, puis elle quitte, tu peux dire, regarde, t'es pas obligé, mais cette bague-là appartenait à ma mère, j'aimerais ça la récupérer, est-ce que c'est possible? Mais si c'est quelque chose que t'es allé acheter à bijouterie, puis que tu l'as fiancé, puis que ça marche pas, puis après 6 mois, tu redemandes la bague...
Ça marche pas.
C'est weird, là.
Non, non, non. Mais ça, c'est le genre d'humain que je ne comprends pas. Puis si vous l'êtes, expliquez-vous. Il y a Joe qui nous dit par texto, même dans la pire journée, pire bad luck qui m'arrive, quand financièrement c'est dur, il dit, moi, je suis toujours heureux à 100%, c'est une perte de tête malheureuse, je m'arrange pour être bien.
Ben oui.
Je trouve ça très hot. J'ai été 15 ans avec mon ex et maintenant depuis 12 ans avec ma blonde. Présentement, je côtoie et je vois encore mes ex-beaux-parents. Mon ex fait partie de notre vie.
Good job.
Avec les enfants et tout, veux, veux pas. Là. On a même gardé nos 4 enfants, dont les 2 siens et les 2 de ma blonde. C'est déjà arrivé. J'ai toujours voulu éviter la chicane pour les enfants et au bout du compte, c'est bénéfique aussi pour nous, les adultes, tu sais, de garder cette relation
saine. Pour les adultes puis les enfants qui ont vu comment leur père traitait leur mère, même après une séparation.
Oui.
Tu sais, t'abandonnes pas des gens qui ont fait partie de ta vie, qui t'ont donné le plus beau des cadeaux, c'est-à-dire des enfants, pour dire... C'est sûr que ça prend de la bonne volonté des deux côtés.
Bien, c'est ça, j'ai l'impression que c'est quand même nouveau comme façon de faire.
C'est sûr que si tu pars avec sa propre sœur, ça se peut que les parties de Noël soient différentes.
Bien, c'est ça. Il y a quelqu'un qui nous dit « Votre sujet me touche tellement ce matin. Hier, j'ai dormi ma première nuit avec mon matelas et mon sommier direct à terre. J'ai laissé un conjoint que j'aimais vraiment beaucoup parce que je lui démontrais plus d'amour en retour et que je devais me respecter là-dedans. Je crois qu'il restait seulement pour des raisons financières au final. Fait que c'est elle qui a dû prendre la décision de couper la relation par malheur de son conjoint. J'ai beaucoup d'admiration pour toi.
Mais c'est de la maturité. Puis sache que dans 6 mois, dans 1 an, tu vas avoir trouvé que c'est le meilleur
move. T'as raison.
Le meilleur move de ta vie. Puis je te souhaite de rencontrer quelqu'un à qui va te plaire pour les prochains mois.
Oui, puis qui va te rendre heureuse. Il y a une psy qui m'avait dit un jour, regarde toujours dans un an, est-ce que ça va compter? Est-ce que ça va encore valoir la peine? Est-ce que ça va prendre la même ampleur? Puis si la réponse est non, ben tu sais, essaie de calmer ton anxiété. Là. C'est très temporaire, finalement.
Oui, puis je pense que c'est Paul Lévesque qui nous avait raconté quelque chose du genre aussi. Ça ressemblait beaucoup à ça, sa dernière chronique. Hey, j'ai fait des reproches à la mère de mes gars matin.
Comment ça? J'ai dit, c'est peut-être Paul qui a dit ça, j'ai pas de mémoire.
C'est Paul.
C'est Paul. Bon, on va lui donner le crédit, OK? Pour moi qui ai sorti ça.
Le problème, c'est que ça date d'une semaine.
Oui, mais j'ai. Hey, ça, Yann, là.
Il y a déjà un psy qui m'a dit un jour.
Ah, mais on va l'apprendre avec le temps, puis là, on va travailler ensemble. Tu vas voir que j'ai vraiment des. Gros problème de mémoire.
J'ai fait des reproches à la mère de mes enfants matin.
Pourquoi?
J'ai envoyé un article que j'ai pogné dans le Journal de Québec où on parle des enfants qui seraient difficiles.
Qui seraient difficiles?
Du côté alimentaire.
Ah, OK.
Moi, depuis que je suis jeune, je mange n'importe quoi. À part peut-être du boudin, là. Ou des choses peut-être un peu trop exotiques comme...
Ça me fait croire que tu as toujours aimé les légumes.
J'ai toujours aimé les légumes. En fait, j'en avais pas vraiment. Ah, quand j'ai goûté à ça plus vieux, ça, c'était comme cool.
C'est fucking triste, mais, mais si t'avais eu des légumes à 2 ans, probablement que t'aurais pas aimé ça.
Je niaise, là. Mais j'ai envoyé cet article-là, puis ça parle des enfants difficiles. Est-ce que selon toi, les enfants qui sont difficiles au niveau culinaire, OK, qui mangent pas n'importe quoi, c'est-tu de la faute du père? C'est-tu de la faute de la mère? C'est-tu de la faute de l'éducation que tu as donnée à ces enfants-là? C'est-tu parce que leurs goûts n'ont pas été assez développés? T'as-tu des hypothèses? Quand les enfants sont difficiles. J'ai une étude scientifique, là.
Mais j'ai hâte de voir les résultats parce que je pense pas que c'est la faute de la mère ou du père dans la mesure où si t'offres une variété alimentaire, ton kid a des affaires qu'il va aimer puis des affaires qu'il aimera pas. Le palais se développe avec le temps. Et je pense que c'est peut-être une question de diversité alimentaire plus qu'autre chose, oui.
OK.
Je suis peut-être dans le champ, mais raide, là.
Ça, là, c'est ce qui court partout, OK, en passant, là.
C'est oui, cette théorie-là?
Ton enfant, faut que tu développes son palais. C'est sûr qu'il aime pas ça. C'est sûr qu'il aime pas ci. Mais plus tard, il va aimer ça. Tu sais quoi? Avec le temps, ça se peut. Okay?
Ouais.
Mais quand ton enfant a 3, 4, 5 ans, puis il est difficile, ça vient de quelque part, puis les scientifiques sont tombés dessus.
C'est la faute de quelqu'un!
Ils ont tombé sur une multitude d'enfants. Ils ont tombé sur des fratries. Deux personnes, un enfant de 2 ans puis un enfant de 4 ans, 2 petits gars, ou un enfant de 2 ans, un enfant de 4 ans, un petit gars, une petite fille.
Hey, je rectifie ma réponse.
Ils ont même tombé sur des jumeaux aussi.
OK, je rectifie ma réponse. Ma mère a une garderie pendant 25 ans, puis je me rappelle que souvent, les enfants mangeaient tout ce qu'ils avaient à manger dans leur assiette à garderie, mais pas à maison. Fait qu'il y a peut-être un peu de faute des parents là-dedans.
Puis t'es en train encore plus de fuck à patente.
Ah ouais, je suis pas là pendant tout.
Les scientifiques se sont penchés là-dessus, puis ont fait de multiples tests, puis en sont venus à la conclusion que quand ton enfant est difficile au niveau de la nourriture, il y a de très fortes chances que ce soit dans son ADN.
Hé, voyons donc. Comme une affaire de coriandre, mettons, là.
Comme une affaire de coriandre. Tu sais, moi, j'ai mon plus vieux, là, c'est au niveau alimentaire, c'est sa mère tout craché. Il y a des choses qu'il mangera jamais. Il y a des choses qu'il aime tout le temps. Si dans l'assiette, il y a quelque chose qui peut être, mettons, pas placé nécessairement à la bonne place, ça va le tiquer un peu.
Hé, hey, mon doigt, qu'à ce point, voilà. Là!
Si, tu sais, il va manger des frites, il va tremper ça un peu dans le ketchup, mais si le ketchup touche aux frites, ça va le tanner un peu. Tu sais quoi? C'est tout cracher sa mère. Puis moi, je pensais que je cherchais des reproches à faire à la mère de mes enfants, mais là, les scientifiques l'ont dit, ça se peut que ce soit un ou l'autre des parents qui a donné ce goût-là pour les aliments qui fait en sorte que des fois, c'est oui, des fois, c'est non.
C'est donc bien spécial, j'aurais jamais pensé. Mais et pourtant, quand tu vieillis, à un moment donné, tu goûtes à des affaires, tu t'adaptes, puis il y a des façons d'apprêter les aliments qui font que tu aimes ça, là.
Oui, le palais va se développer, mais en tes jeune papilles âge, gustatives vont se développer, mais jeune âge, t'es prédestiné. Les enfants difficiles, ça vient souvent de l'ADN.
C'est donc bien comique.
Puis des fois, ça peut sauter des générations. Puis, mais c'est comme ça pour plein de choses, hein. Pour les talents. Tu sais, il y a des talents qui sont innés chez certains enfants.
C'est vrai.
Tu dis, bien voyons, t'as
des familles de chanteurs, là.
Je suis capable de faire un bonhomme allumette, mais mon fils est capable de faire une toile. Puis tu t'aperçois que la grand-mère maternelle, c'était une artiste peintre juste incroyable. Des fois, ça saute des générations. L'ADN est exceptionnel pour ça.
C'est fou,
il y a même les peurs qui peuvent se transmettre par là.
Hey, mais ça c'est vraiment prouvé, puis il y a tellement d'études. Là.
Fait que si quelqu'un, dans sa jeunesse, mettons en 1910, il a failli se noyer, puis il a failli mourir, ben ça se peut que ses petits-enfants, à la naissance, aient une peur de l'eau qui est incontrôlable au départ.
Un petit traumatisme là avant. Ouais. Mais écoute, prends la plus banale des peurs, les araignées. Je veux dire, ils en ont fait des études où ils prenaient un groupe où les araignées, c'était donc beau, c'était fascinant, c'était le fun, ça a 8 pattes, tout gibranlait. Puis l'autre, ben c'était carrément, en fait, des parents qui étaient effrayés, ben raides, des mamans surtout. Puis ça a un gros rôle sur l'enfant, là. Et moi, ma mère avait peur des araignées, elle m'a dit que je suis pas capable de les voir de près, ça m'écœure. Puis des fois, je me dis, c'est donc ben ridicule, je prends des coccinelles, j'ai pas de problème. Mais une araignée,
elle te l'a transmis.
Ben oui. Ouais. Mais je pense que ça vient du même principe que ce que t'expliques, là.
Ouais.
C'est quand même vraiment intéressant.
Puis quand des bébés, tu sais, les bébés, j'ai hâte que tu aies des bébés pour que tu puisses te joindre à la discussion, mais des bébés qui se cognent, là.
Ouais.
Si le père est là, puis le père rit, l'enfant va rire.
Oui.
Puis si la mère est là, puis elle fait... l'enfant va éclater en sanglots pour que sa mère le console.
Mais tu sais que j'ai travaillé en petite enfance, j'ai été remplaçante en garderie, puis l'enfant est fascinant. C'est une page blanche, en fait. Il se fie énormément sur l'adulte pour les réactions.
Ah, qu'est-ce que ça dit par texto, là?
Ben là, ça dit... Il y a quelqu'un qui nous dit que c'est 100% la faute du père qui préfère une pizza pochette que le souper sur la table.
Ah, ben,
l'enfant peut imiter. Ça, c'est vrai aussi. Si tu manges pas une affaire que t'es kid, souvent, ça joue, ça, là. Ben oui, c'est bien meilleur à la garderie, je confirme. C'est souvent ça aussi, la garderie. C'est comme s'il y avait quelque chose de spécial. Les enfants vont écouter la garderie, vont manger tout ce qu'on leur propose. Tout est beau à la garderie, puis à la maison, c'est des monstres. On nous dit, en tout cas, moi, ma génétique n'est pas faite pour, pour la coriandre. Mais ça, il paraît que c'est vraiment une question de molécules. Genre, t'aimeras jamais ça de ta vie, ton goût se développera jamais. Là. Je ne sais pas si t'aimes la coriandre.
Non, moi, c'est juste le boudin. Je pense qu'il y a le boudin qui m'écœure.
Oui, ben le boudin rouge, le sang, là.
Oui. Y a-tu d'autres boudins, mettons, boudin jaune?
Boudin blanc, non, c'est en joke, oui.
Y a du boudin blanc?
Absolument, j'ai déjà mangé ça, c'est super bon. C'est comme du poulet, en fait.
C'est fait avec quoi, là?
Ben, c'est comme, en fait, c'est comme un mélange de... Hé, là, puis je vais de mémoire, là, vous me corrigez, 971, je suis dans le champ, j'avais mangé ça un Noël chez une famille demi-français. Il me semble que c'est comme du pain...
Demi-français. Boudin blanc.
Il me semble c'est genre du pain avec du poulet, là. Ça vient comme une pâte vraiment bizarre, mais c'est super bon.
OK, mais c'est fait avec de la viande blanche. Tu vois, je serais plus ouvert à manger du dindon rôti.
Ah, parce que ça, c'est transformé, là. C'est pas comme le sang qui est comme cristallisé, là. Ouais. C'est, on est ailleurs, là. Y a-tu du monde qui aime le boudin? On veut pas être amis.
Ben, y en a comme ça. En fait, il y a un restaurant qui, si je me trompe pas, vient de fermer depuis quelques semaines, qui était un spécialiste du boudin à Québec, là. Il y en a qui allaient à ce restaurant-là spécifiquement pour manger ce boudin-là qui était incroyable à leur papille gustative.
Parce que le boudin, au-delà du goût, moi, c'est la texture. Là,
moi, tu mets ça dans ta fiche tender puis je te swipe à gauche.
Oui, mais pareil comme toi, je suis à la même place.
On est de même. Vous êtes bizarres, ceux qui mangent du boudin.
Voilà. On a un très gros show de prévu, puis on a déjà pris bien du retard. Vous êtes dans l'open mic. S'il y a quoi que ce soit, 88-971-102-1, texto 780-102-1, par téléphone.
OK, ça servait à ça, de dire qu'on est en retard.
Oui, il fallait que je le dise, que je viens de voir l'heure, puis je sais qu'on a un invité qui attend.
Nick, copilote sur boulevard. On vient. 11h29, vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. Merci d'être là actuellement sur Québec. À certains endroits, il pleut. À d'autres, ben, il va pleuvoir bientôt. À 14, c'est de la pluie pour toute la journée. C'est ce qu'on nous mentionne. Ce soir, cette nuit, un ciel nuageux avec de la pluie qui devrait recommencer vers les alentours de minuit, minimum de 13. Demain, jeudi, de la pluie entre 10 et 20 mm annoncés avec un maximum de 16 degrés. Et vendredi, pour terminer la semaine, ben, ce sera une alternance de soleil et nuages, maximum de 21. Puis le topo n'a pas changé pour ce qui est du week-end. Plein soleil pour samedi, plein soleil pour dimanche. Pour me joindre en studio, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Il se passe quoi que ce soit sur la route, vous êtes nos yeux, nos oreilles.
Sur la 20 direction ouest, à la hauteur de la route du président Kennedy, il y a un petit ralentissement au moment où on se passe. Vous êtes sur Guillaume Couture, à la hauteur aussi de la route du président Kennedy. Il y a des travaux, le fait que léger ralentissement. Pour le reste, ça roule super bien. Évidemment, vous n'hésitez pas par texto.
Max, les news. 10h32, merci d'être bien présent dans l'Open Mic. Audrey qui nous trouve des invités à gauche et à droite. Travaille extrêmement fort. Merci Audrey d'avoir accepté de faire ce show-là avec moi.
T'es bien fin, Martin, qu'est-ce qui se passe?
En fait, t'avais pas le choix.
Ouais, c'est ça.
Mais au moins, t'as accepté, tu t'es pas sauvé. Puis on le voit, tu travailles extrêmement fort. J'en parlais d'ailleurs hier soir avec un gars avec qui j'aimais bien m'entraîner.
OK.
Et on a dit qu'Audrey travaillait fort. Ah, Pascal aussi travaille très fort.
C'était... Il est fin, Martin.
Oui.
Tu files doux, on dirait.
On est comme ça. Hey, on se réfère un peu à... Il y a-tu quoi, quelques semaines, mm-hmm. Il y a un article de Maria Mourani dans le journal qui nous avait un peu interpellé parce que, bon, Maria Mourani, c'est une personne que j'aime beaucoup. C'est une criminologue, une femme extrêmement intelligente. Elle a ses opinions. Est-ce qu'elle a toujours raison? Pas sûr. Il n'y a personne qui a toujours raison. Mais elle a ses opinions. Puis dans le papier, elle parlait de prostitution. On a parlé avec elle, entre autres, en ce qui a trait au Grand Prix de Montréal,
ouais.
Où il y avait des gens qui provenaient d'un peu partout dans le monde, spécifiquement pour se prostituer à Québec, et des gens qui provenaient d'un peu partout dans le monde, oui, pour la F1, mais pour avoir droit de côtoyer ces filles-là qui se présentaient à Montréal. Mais dans l'article présent, Maria Mourani nous avait marqué en disant « Ben, il n'y a pas de bonne prostitution à ses yeux ». Selon elle, ce serait juste des viols tarifés. Donc, en gros, la prostitution, selon elle, c'est pas un travail. Que d'ailleurs, le terme « travail du sexe » ou « travailleur du sexe » n'est ni reconnu ni défini en droit international. Il est utilisé pour faire passer la pilule, selon elle, pour soi-disant redonner une dignité aux personnes qui se prostituent.
Oui, puis c'est quand même des termes qui sont forts. Puis c'est drôle parce que chaque fois qu'on parle de prostitution, on dirait qu'il y a deux gangs automatiquement là, qui se forment. Là. Des gens qui sont pour la liberté du choix de travail que tu fais. Il y en a qui associent ça automatiquement à l'exploitation aussi. Fait que tu sais, c'est dur de se débattre dans tout ça. Et puis moi, il y a un bout du texte qui m'a quand même marqué où c'est écrit « Pensez-y bien, si vous enlevez la transaction financière de l'équation, croyez-vous vraiment qu'une fille ou un gars accepte d'être touché? » Fait que de là, l'espèce de termes viol tarifiés qu'on emploie. Puis on s'est dit, ben, qui de mieux pour en parler que quelqu'un qui travaille dans le domaine carrément, une travailleuse du sexe qui est dans la région. Elle s'appelle Amy Belle-Rose. Puis elle a accepté de se déplacer en studio ce matin pour venir jaser tout ça avec nous autres puis nous éclairer un peu. Bon matin.
Bon matin. Merci pour l'invitation.
Merci d'être là, Amy. T'as lu l'article de Maria Mourani.
Oui,
tes premières impressions quand t'as lu ça?
Mon Dieu, j'ai trouvé ça cru. Puis c'est des grands mots, comme tu disais, Audrey. Moi, je pas d'accord avec la plupart de ces propos là, ça ouais. C'est sûr et certain.
Comment on fait le choix de devenir prostituée?
Ben comme tu le dis, c'est par choix dans mon cas, puis bon, ça fait quand même longtemps que je fais ça, puis là c'est sûr que la première motivation pour moi c'était l'argent. Là. On s'entend ouais. que tu fais pas ça, ben tu peux faire ça. Normalement, c'est pas mal le premier choix, tu fais ça pour l'argent et tout. Tu
avais quel âge à ce moment-là?
J'avais 21 ans. Mais tu sais, j'étais allée à l'université, j'ai fait d'autres choses, mais bon, ça c'est aussi que ça donne une liberté comme de travail, tu peux travailler quand tu veux, c'est une bonne conciliation travail-famille. Moi, je suis travailleur autonome, là, fait que je décide dans mon horaire et tout. Là.
OK. T'avais-tu des exemples durant ton adolescence de jeunes femmes que t'avais côtoyées qui pratiquaient ce métier-là?
Non, pas du tout. J'ai d'une bonne famille, je suis allée à l'école privée, j'ai été poussée justement pour faire des études supérieures. Mais bon, j'avais comme... j'ai toujours été, bon, disons, comme une sexualité un peu débridée. C'est sûr qu'il faut que tu sois à l'aise avec ta sexualité pour faire ça. Tu peux ouais. pas être vraiment une sainte-nitouche. Fait qu'à partir de 16 ans, moi, comme ben, je vais parler d'une façon un peu crue, là. Ça me dérangeait pas de coucher à droite puis à gauche. Là. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu aies une sexualité assez ouverte en partant pour faire ça. Ça, il y a un moment que je me suis dit, c'est quoi la différence entre coucher avec n'importe qui ou être payé pour le faire? Là.
Tu dois te le faire demander souvent, là, mais tu dis, bon, je viens d'une bonne famille, j'ai fait mes études, j'ai... comment t'annonces ça à ta famille? Comment c'est pris, je veux dire?
Ah, c'est sûr que c'est très mal pris, là. Ça s'est fait de fil en aiguille. Ma mère, comme elle l'a découvert, au début, je disais que j'étais danseuse. Après ça, masseuse. Puis après ça, bon, elle a fini par découvrir que j'étais escorte.
Il y a eu une certaine désensibilisation que tu as tenté de faire avec tes parents.
C'est sûr.
OK.
Puis en plus, comme mon père est d'origine musulmane, donc ça n'a pas été facile de ce côté-là. Puis, mais c'est ça, ils ont fini par l'accepter aussi, mais c'est sûr que ma mère, elle ne crie pas sous tous les toits à ses amis que je fais ça. Ça reste tabou, là.
Ils ont-tu... Tu sais, des fois, on fait tout le temps des rétrospectives en tant que parents, là. Tu sais, quand nos enfants font des niaiseries, surtout les miens, je dis, voyons, vous savez que j'ai raté à quelque part. Ils ont-tu ce réflexe-là d'amener ça sur eux en disant, mais Amy, qu'est-ce qu'on t'a pas donné, qu'on aurait dû te donner, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu choisisses ce métier-là? Ils ont-tu pris ça sur eux?
Non, mais peut-être qu'elle l'a pensé, mais pas voulu me faire culpabiliser, mais non, on n'a jamais comme tenté ce terrain-là.
Comment la prostitution a changé? Tu sais, on dirait qu'on a l'image automatique des filles sur le trottoir, tu sais. Mais tu sais, tu as un site, c'est organisé différemment. Aujourd'hui, on parle tout le temps de réseaux sociaux. Fait que comment le profil de la prostitution a changé avec les années?
Moi, je pense que c'est quand ils ont permis les ouvertures des salons de massage. Ça fait quand même longtemps. Je pense que ça fait une vingtaine d'années. Au départ, les salons de massage, il n'y avait pas d'extra. Donc, je pense que ça a favorisé comme une place comme plus sécuritaire pour les femmes. Puis, de fil en aiguille, il y a eu moins de travail dans la rue. Puis après ça, c'est ça. Comme nous, les filles indépendantes, on a des sites Internet, on a aussi les réseaux sociaux pour faire notre publicité.
C'est-tu la meilleure façon de faire pour éviter l'exploitation? Je ne sais pas si la question est bien posée.
Tu parles d'être indépendante?
Oui. Hein?
Bien, ça dépend parce qu'il y a des filles comme qui vont préférer être dans une agence ou dans un salon de massage parce que ça ne leur tente pas d'avoir à tout gérer. Parce que moi, je gère de A à Z, je gère mon site web, je gère mes textos, je gère mes rendez-vous, je gère les annulations, les patatis patata. Donc, ça fait beaucoup d'ouvrages. Il y en a qui veulent pas se casser la tête, qui arrivent à job, puis font leurs chiffres, puis elles repartent comme ça.
Comment tu t'assures de ta sécurité, Amy?
C'est sûr que moi, je filtre mes textos. Puis je le vois tout de suite, là, comme tu as des red flags. Dépendamment comment qui t'écrit, tu le vois tout de suite. Là.
Ah ouais.
La façon de qui t'aborde, puis tu es comme, OK, non, je te prends pas. Là.
C'est quoi un red flag pour toi, mettons, d'un client qui réussit à te rejoindre, puis là, toi, tu dis, non, moi, je veux rien savoir de ce gars-là?
Mettons qu'il va commencer à trop me demander des choses que j'aimerais pas faire. Je vais dire, écoute, je serais pas la bonne personne pour toi, puis je te conseille d'aller voir une autre fille.
Ça, c'est clair.
C'est clair. Comme si je me sens pas bien dans la communication qu'on a eue, là, je vais pas plus loin. Ça me dérange pas de perdre de l'argent. Je préfère me sentir en sécurité.
Ouais. Tu t'assures-tu d'être dans un endroit qui est relativement passant? Je veux pas sans nécessairement me dire où tu es. Est-ce que tu sais, les hôtels, c'est plus sécuritaire pour vous autres?
Moi, je suis pas dans un hôtel. J'ai vraiment mon lieu de travail, comme j'ai mon propre in-call. J'ai mon appartement aussi où je demeure, donc c'est séparé. Puis, si j'ai des voisins autour, donc c'est sûr. T'sais, bon, on peut pas... T'sais, le risque n'est pas à zéro non plus. Là. Comme que ça soit aussi dans un salon de massage, le risque n'est pas à zéro. Sauf que j'ai déjà travaillé dans un salon de massage, puis ça arrivait que le client payait pas son extra, puis qu'il laissait partir quand même. Donc, moi, je me sens beaucoup plus en sécurité chez moi. Je ne laisserais jamais partir quelqu'un. Probablement, je le fais payer avant, là. Puis, tu sais, s'il paye pas, mais écoute, tu peux t'en aller, la porte est là. Ouais. Mais comme dans un salon de massage, il laissait partir le client sans que j'aie été payé.
Y a-tu des gens qui se proposent à toi constamment pour être ton protecteur, entre guillemets?
Honnêtement, jamais, là.
Jamais.
Puis ça arrive, ben c'est sûr que je le laisserai pas entrer dans ma vie. J'ai déjà eu des conjoints, mais comme mon conjoint, il me demandait pas 50% de mon salaire, j'avais à payer comme la maison, l'hypothèque, comme n'importe qui, là, qui sont en couple.
Je ne sais pas si ça va bien sortir comme question, là, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines filles, selon toi, qui se ramassent dans entre les doigts de pimp, tu sais? Là, je t'écoute parler, puis toi, tu as l'air vraiment au courant de ta business, de comment tu gères tes affaires, tu as tes limites, Et pourtant, il y a beaucoup de filles très intelligentes, très éduquées, qui, au quotidien, se ramassent sous l'exploitation d'un pimp.
Moi, je pense que peut-être que ça vient d'un manque de confiance en elles, puis qu'ils pensent qu'elles dépendent de quelqu'un. Il y a aussi, c'est ça, le sentiment de protection, peut-être, qu'ils ont peur d'avoir à travailler toute seule. Mais tu sais, c'est juste une impression parce que chaque fille peut vraiment travailler toute seule, puis ça, c'est mieux pour leur sécurité. Là. Parce que justement, si, comme le pimp, le proxénète, il va prendre n'importe quel client, là, lui, ça ne dérange pas, il ne fait pas le filtre là, des textos. Donc, il peut mettre la fille en danger. T'sais, c'est comme une fausse impression de sécurité, souvent, que d'après moi, les filles vont chercher. Puis, comme je dis, un manque de confiance en elles, qui sont comme « Ah, je mérite pas mieux, peut-être que... »
On entend tellement d'histoires d'horreur au quotidien. C'est ce qui ressort le plus,
c'est
en
ça,
fait.
C'est ça, mais
là,
ils parlent pas des bonnes choses non plus. Là. Ils parlent pas comme du côté positif du travail. C'est tout le temps comme
le côté négatif oui. qui ressort. Et est-ce que tu sens que tu as une crédibilité comme travailleuse du sexe?
Bien, c'est sûr que je dis pas mon métier ouvertement parce que je peux pas arriver chez le dentiste et dire « Moi, je travaille du sexe. » Ça va comme créer un malaise. Donc non, j'ai pas de crédibilité à cause de tous les préjugés, les tabous qui sont... à propos de notre métier. Là.
Moi, je suis un gars plate dans la vie, en couple. Je suis un gars conventionnel. Okay. Okay? Je suis protecteur de ma blonde et tout ça. Quel genre de gars peut te démontrer une ouverture qui va faire en sorte qu'il va accepter le métier que tu fais tout en ayant une relation amoureuse avec toi? Est-ce qu'il y en a beaucoup de ces gars-là?
Ben, il y a quand même des critères là, que j'avais déjà parlé de ça avec mes amis. Soit le gars, il est vraiment comme troublé mentalement. Là. Non, mais
c'est... C'est bon.
Sur Tinder, c'est rare qu'ils écrivent ça. Je suis troublée mentalement.
Non, mais c'est ça. Ou ben non, il veut profiter de ton argent.
Ah, ouais.
Ou tu sais, il fait un métier louche lui aussi. C'est vrai que c'est comme pas vraiment conventionnel. Donc, c'est rare que la personne va être 100% mentalement là puis qu'elle va dire « OK, j'accepte ton travail d'emblée. » Là.
T'as-tu encore confiance aux hommes?
Ben là, avoir la quantité d'hommes qui trompent leur conjointe, pas vraiment, là.
Mais tu trouves ça difficile pour vrai? Parce que, tu sais, je t'écoute parler, puis si je résume, c'est pas très, très positif. Là, ils sont soit détraqués mentales, soit ils veulent ton argent, soit... Est-ce que tu envisages une relation amoureuse à un moment donné où tu vas devoir te retirer de ce métier-là?
Je pense qu'honnêtement, si je veux une relation saine, il va falloir que je me retire comme de ce milieu-là. Donc, c'est pas ma priorité d'être en relation de couple.
Mais tu sais, l'homme est capable du meilleur comme il est capable du pire. Est-ce qu'un jour, advenant le cas, lorsque tu prendras ta retraite, tu vas avoir l'impression que tu vas pouvoir être avec un conjoint puis ne pas constamment douter qu'il est aussi weird que toutes les autres que tu as rencontrées?
Ça dépend, comme il faut que tu t'attends. Comme l'homme a besoin de sexe. C'est vraiment, les hommes ont vraiment une grosse libido. Donc, il faut que tu parles avec ton conjoint. Si tu n'es pas capable, toi, de donner qu'est-ce qu'il veut, ben écoute, est-ce qu'on peut être dans un couple ouvert? Rendu là, je vais parler, on va voir c'est quoi nos attentes à ce moment-là. Parce que tu peux pas comme contraindre ton conjoint dans une cage, puis quand tu lui donnes rien, il va...
Est-ce que tu as le sentiment que quand bon, tu tentes des relations plus personnelles, que les gars ont des attentes envers toi? J'ai comme l'impression que, plus que je dis ça, Yann, corrige-moi, en fait, là, j'ai pas la pensée d'un homme non plus, mais dans ma tête, on dirait que les gars ont l'impression que, ben si tu fais ça de ton quotidien, puis là, je m'excuse les termes, ben c'est le son, ben t'es une cochonne, puis au lit, dans le personnel, là, ça va être intense, puis est-ce que tu as affaire à ça ou...
Ben je te dirais qu'avec mon ex, on faisait plus l'amour comme que d'autres choses, parce qu'il y avait comme les sentiments qui étaient là, donc c'était comme plus passionnel qu'au travail, tu sais, le travail, ça reste que... C'est une prestation que je donne de service puis de sexe. C'est pas, je donne pas mon amour, donc ça vient que c'est ça qui crée comme la différence. Puis non, il n'y avait pas d'attente. Là. C'est sûr qu'après une journée de travail, c'est peut-être que ça me tentera moins, mais c'est pas pareil parce que l'amour est là.
OK. Est-ce que tu as écouté le film Pretty Woman?
Ça fait longtemps. Okay. Là.
Est-ce qu'il y a déjà des Richard Gere qui t'ont approché en disant « Moi, Amy, t'es la femme de ma vie puis je veux t'avoir pour moi jusqu'à la fin de mes jours? »
Non, c'est pas arrivé parce que ça prend un gros budget pour faire ça.
tu dépenses beaucoup,
c'est vrai, mais c'est vrai, là.
Tant qu'on se dit vraies affaires.
Mais il n'y a jamais personne qui t'a dit, moi, je tu t'en viens avec moi, on va faire le tour du monde.
Non, jamais. Okay. Je pense que ça arrive comme plus à Montréal, ces choses-là, comme le monde a plus d'argent à Montréal.
Excuse-moi, tu vas
dire. Non, mais c'est parce que je trouve que la perche est tellement là. Tu sais, tu parles de Montréal, mais est-ce qu'il y a une grosse demande dans la région de Québec? Parce qu'on entend toutes sortes d'affaires par rapport à des arrestations, tu sais, des chiffres au niveau de la prostitution dans la région. Et, tu sais, je vous donne des exemples, mais les arrestations en lien avec la prostitution ont augmenté, bon, en flèche dans les dernières années. On parle de comme 180 arrestations au Québec, puis à Québec, on parle de 41 arrestations. Arrestations dans les deux dernières années. Puis, tu sais, pour vous faire un comparatif, là, quand tu es comme entre 2018 et 2022, on parle de 3-4 par année. Fait que quand on dit en flèche, c'est vraiment en flèche. Est-ce que tu sens ça, toi, dans le milieu, qu'il y a une grande clientèle actuellement?
À Québec?
Oui.
Bien, je te dirais qu'on est en récession, puis on ne se le cachera pas. Donc, ça a un impact sur la diminution de la clientèle.
Même les clients, pour ça, sont en récession?
Oui.
Coupe dans le budget loisir.
Bien, c'est ça. C'est comme quelque chose que tu vas te priver. Tu ne vas pas comme priver sur l'épicerie quand tu as des enfants. Bon, bien, ouais. Ça, c'est comme un petit loisir que tu te coupes, là, parce qu'il y a beaucoup de négociations. ils essaient d'avoir nos tarifs à la baisse. Il y a moins de clients qu'avant. Donc, oui, il y a une diminution de la clientèle.
OK, je vais jouer un jeu avec toi. Okay? On va faire un quiz. Je veux que tu me répondes par des pourcentages.
OK, ouais. Je vais essayer du mieux que je peux.
Le pourcentage d'hommes mariés qui sont parmi ta clientèle? Ben d'hommes en couple, tiens.
Je te dirais 70 %
Oh, belay!
OK. Le pourcentage de beaux bonhommes.
ça va être méchant pour mes clients. C'est comme, je veux pas...
On est juste trois, là.
Ouais, c'est ça. 20 %
OK.
20 % de beaux bonhommes. OK.
Le pourcentage d'en haut de 50.
Mais moi, honnêtement, ma clientèle est plus en bas de 40 ans. Donc,
ah, OK.
Oui, c'est... Mais pour la... je dirais comme dans la moyenne des filles, il y en a beaucoup, en haut de 70, mettons 30-40 % okay. haut de 50 ans. Là.
Mais ça, vous pouvez le choisir, votre clientèle.
Oui, il y en a qui font okay. qui disent, oh, je veux pas de clients en bas de 35 ans jusqu'à 70 ans. Là, mais moi, je fais pas de...
Okay. Fait que toi, en pourcentage, c'est tout le temps des gens qui sont en moyenne autour de 40 ans.
Oui, 35 okay. à 40.
Les gens qui te demandent des affaires normal versus des affaires anormales en pourcentage?
Anormal, on parle d'un exemple de genre fétiche des pieds ou...
Ouais, des affaires de même. Ça, c'est quelque chose qui m'écœure en passant.
Ouais, c'est un peu particulier, mais je te dirais 5 % des gens qui demandent des choses un peu hors normes.
Hors normes. Ah ouais, juste ça, je me serais attendue à plus, on dirait.
Le pourcentage. Ça dépend parce qu'il y en a qui vont comme plus proposer ça déjà d'emblée dans leur annonce. Donc, mais...
tu peux faire un choix.
C'est ça.
Le pourcentage des gars qui vont te voir Amy Bellerose en te disant moi, je veux juste jaser.
Ils vont prendre, mettons, 2 heures. On va jaser là-dessus, mais il va y avoir comme des rapports. Fait que, okay. Juste jaser, je dirais 1% que ça m'est arrivé une fois.
OK. Un homme avec une travailleuse du sexe, ça dure combien de temps dans la pénétration? En moyenne?
2-3 minutes.
2-3 minutes?
Seulement?
Ben, il y a des préliminaires avant, ouais. là, mais...
Non, mais tu sais, je me serais attendue à tu payes un service puis tu le payes, là, on s'entend.
Ben, tu essaies de faire durer le plaisir, là, mais okay. à un moment donné, l'homme a ses limites.
Okay. Je suis d'accord.
Le pourcentage de gars qui en demandent 2 puis 3 fois lors de la même séance. Je sais pas si c'est une séance, c'est ça qu'on dit? Une rencontre.
Ça dépend parce que moi, si tu veux 2 services, c'est 1 heure et plus. Donc, okay. Mais comme je te dirais qu'après leur première fois, ils sont souvent fatigués. Il y a un pourcentage qui demande 2e fois, 30 %
Le pourcentage de gars qui ont pleuré à côté de toi?
5 %.
Hey, c'est quand même plus que 5 %. Il y en a qui viennent émotifs.
Je me suis fait raconter. Ouais.
Pour vrai, de vrai?
Mais il y en a, tu sais, puis là, on embarque un peu dans la psychologie, mais il y en a qui n'ont pas de relation avec des êtres humains.
C'est ça, mais on leur amène un bien psychologique aussi.
Ils se font pas coller, ils n'ont pas de chaleur humaine, ils ne sont pas capables de discuter de personne à personne avec une autre personne. Puis moi, ce qu'on m'avait raconté lors d'une émission que j'avais faite avec des travailleuses du sexe, c'est que il y a des gars qui, oui, la relation sexuelle, mais ce qui est encore plus important, c'est le social qu'ils vont faire avec la travailleuse du sexe. Puis parfois, ben, ils sont tellement contents de se faire juste flatter le dos qu'ils en pleurent.
C'est triste pareil.
Ben oui, c'est triste.
Mais en même temps, ça justifie le métier, là, je vais le dire comme ça. C'est quoi les plus grands enjeux, selon toi, de la prostitution?
Je te dirais comme la solitude, surtout comme en tant que travailleuse indépendante, l'isolement que tu peux avoir, le manque de soutien féminin. Comme des fois, tu te sens un peu les clients blacklist que tu voudrais mettre ou partager. Puis ça serait un peu les enjeux au niveau du travail indépendant. Puis au niveau des salons ou des agences d'escorte, je dirais comme des meilleures conditions de travail parce que j'ai déjà travaillé là, tu travailles tard la nuit ou... des clients d'un centre de massage, t'en as un après l'autre, puis t'as comme pas de pause. T'as comme pas de, comment dire, de conditions de travail.
Ouais. Je allais te poser la question, mais j'imagine que la réponse, c'est oui. Là, j'allais te demander, est-ce qu'il faut décriminaliser la prostitution de tout bord, de tout côté, là, la considérer comme un travail légitime pour justement améliorer les conditions?
Il y a une différence entre décriminaliser puis légaliser, parce que décriminaliser, ça viendrait comme mettre des... on aurait sûrement comme des permis à avoir... faudrait comme vraiment, comme je sais pas, faire nos comptes, nos factures, etc. C'est que ça viendrait comme créer un isolement encore plus avec les personnes qui travaillent dans la rue. Eux autres seraient encore plus, stigmatisés. Parce qu'ils sont déjà un peu dans cet état-là, ils sont déjà comme rushés par la société. Donc, si on viendrait comme décriminaliser le travail du sexe, ça les mettrait encore plus dans un état vulnérable. Parce que c'est sûr qu'eux autres sont déjà comme pas dans la société normale. En mettant comme plus de règlements, c'est sûr que ça serait... Eux autres, il y aurait des amendes. S'ils respectent pas les permis, ils se ramasseraient dans des situations un peu dangereuses.
Mais comment tu vois ça, mettons, pour un futur où c'est plus beau pour vous?
Ça serait comme si on légalise le travail du sexe. J'imagine qu'au fil du temps, les tabous, ils tomberaient. Les préjugés, il y en aurait moins. On serait capable de dire haut et fort qu'ils ont fait ça, puis ils seraient pas gênés de le dire, là. Moi, ça serait plus à ce niveau-là, comme qu'il y ait une acceptation au niveau de la société.
Hey, on va revenir à ce que tu viens de dire juste avant. Le pourcentage d'hommes qui te font plaisir pour vrai.
Il peut l'air!
Wow! C'est une question que je peux pas répondre.
Okay. Elle veut pas dire zéro, faut que je vais le dire.
Amy, je trouve ça vraiment nice que tu te prêtes à l'entrevue parce qu'on peut te poser n'importe quelle question. T'es hyper brillante, t'es hyper allumée.
Merci.
Est-ce que... comment vos rapports d'impôts, vous écrivez quoi?
Encore là, ça dépend de chaque fille. Là. Je peux pas répondre pour tout le monde, mais c'est sûr que t'as pas le choix de déclarer tes impôts parce que il faut que tu sois un citoyen, un honnête citoyen.
Un rythme de vie.
C'est ça. T'sais, moi, j'ai des enfants, donc j'ai comme si mes allocations familiales ou mon retour anticipé de la garderie, mais j'ai pas le choix de déclarer mes impôts, admettons.
Ouais.
Mais bon, c'est sûr que le salaire que tu déclares, c'est...
Il faut-tu que tu écrives ton métier, mettons?
J'ai comme écrit plusieurs métiers.
Flûtiste.
Ouais, flûtiste, pourquoi pas? Mais là, en ce moment, je suis adjointe administrative.
OK,
administrative. Fait que c'est comme ça que c'est joué.
Ouais.
Ah, c'est intéressant, c'est ça, mon Dieu.
Ben, t'sais, comme des comptables ou des conseillers financiers qui sont comme plus... qui travaillent plus pour les TDS, donc eux autres, ils sont capables de comme t'arranger quelque chose.
Okay. Est-ce que...
Encore là, comme c'est ça, on parlait de la légalisation, ça encore, ça serait un exemple qu'on n'aurait pas à comme, cacher notre métier. On pourrait l'écrire « Travailler du sexe indépendant ».
De notre côté, il n'y a pas une fille qui voudrait se faire imposer à 50%.
Non, c'est sûr.
C'est déjà que tu es obligé de faire l'amour d'un bord, de te faire agresser par le gouvernement, ça ne t'intéresse pas.
Non, c'est sûr.
Est-ce que... Bon, là, tu as des enfants, OK? Oui. Le père des enfants, je ne veux pas trop rentrer dans ta vie, mais en même temps, je rentre pas mal dans ta vie. Le père de tes enfants, il doit être au courant de ce qui se passe. Il doit être stressé un peu pour la mère de ses enfants. Tes enfants, est-ce qu'un jour, ils le sauront?
Bien, honnêtement, c'est une question qui est récurrente. Là. Ça revient souvent comme question. Puis je ne suis pas rendue là. Mon fils, il a 5 ans. Ma fille, elle a 1 an. C'est sûr que je m'affirme 100% dans mon métier, mais je serais comme en même temps, c'est un peu ambigu. Parce que je ne serais pas contente que mes enfants apprennent que je fais ça. C'est que je suis comme en questionnement par rapport à ça. Je suis pas encore positionnée. Là.
As-tu l'impression que tu pourrais arrêter ce métier-là?
C'est sûr que si ça a un impact sur mes enfants, là, j'arrêterais. Le métier est encore jeune, il y a 5 ans, mais là, de toute façon, je ne travaillerais pas jusqu'à 55 ans, là, ça c'est sûr. Là. Puis on verra rendu là, mais non, c'est sûr que pour mes enfants, si ça a un impact, c'est sûr que non.
Ça va passer avant le métier.
Oui, c'est sûr et certain.
Parle-nous du projet Lune, parce que, tu sais, on parle du fait que vous n'avez pas nécessairement beaucoup de support, de crédibilité, de tout ce qu'on voudra dans ce métier-là. Tu es présidente du comité de représentation, si je peux l'appeler comme ça.
Comité d'administration.
Administration. Fait que c'est quoi ce projet-là exactement? De ce que je comprends, c'est un groupe qui vient un peu à la défense des droits des travailleurs du sexe.
Oui, c'est ça. Il y a comme un volet un peu qui milite pour les droits des travailleurs du sexe. Puis un autre côté qui ont un hébergement, un drop-in qui appelle, que c'est les femmes qui ont besoin d'un hébergement comme temporaire, qui viennent le soir, puis ils dorment là. Ils ont un accès à la douche, ils peuvent manger, ils peuvent avoir des vêtements propres et tout. D'ailleurs, si vous avez des vêtements à donner ou des dons à faire, vous pouvez en faire sur Projet Lune. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au bureau même du Projet Lune, c'est celles-là qui ont besoin de prendre une douche dans le jour, bien, ils viennent, il y a comme deux douches, puis ils peuvent laver leurs vêtements, je pense. Non, ça, je suis pas sûre, là, mais en tout cas, il y a des laveuses sécheuses pour les serviettes, ça, je sais, mais...
Fait que c'est vraiment le but est d'aider, parce que là, de ce que je comprends, ça, c'est probablement pour les femmes qui ont beaucoup plus de difficultés.
Oui, c'est ça. C'est surtout, il y a des femmes qui sont des travailleuses dans la rue de sexe, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. J'ai pas les statistiques à propos de ça, mais c'est ça. C'est vraiment comme un organisme qui est là pour les femmes ou les personnes qui sont comme des femmes. Mm-hmm.
Je sais pas si c'est une question qui va être claire, là, mais tu dis que tu n'es pas sûre d'assumer encore à 100% ton métier par rapport à tes enfants. Uh-huh. Là, tu dis que tu as un jeune garçon puis une jeune fille.
Oui.
Tu sais, quand tu penses, parce que là, tu es une femme qui prend ses décisions, mais tu sais, on en voit beaucoup des histoires d'horreur de jeunes filles, justement, qui se ramassent dans l'industrie du sexe à des âges pas possibles, là, du 14 ans, des fois. Quand tu penses à ce volet-là, est-ce que ça t'inquiète par rapport à ta fille?
Bien, c'est sûr que je verrais comme des déjà, vu que je suis là-dedans, je verrais déjà comme les, disons, les red flags, là, comme qu'est-ce qui se passe, comme tu le vois un peu. Mais c'est sûr que s'il se passe de quoi, je serais là pour l'aider et pour la soutenir.
Serais-tu à l'aise qu'elle fasse le même métier que toi un jour?
Honnêtement, j'aimerais mieux qu'elle fasse autre chose. Là. J'aimerais mieux qu'elle fasse ses études et qu'elle continue là-dedans. Là. Mais bon, si elle veut faire ça, je peux pas l'en empêcher. Je vais pouvoir l'aider du mieux que je peux, mais c'est ça. Ben, mon gars aussi pourrait faire ça, vu qu'il y a des gars aussi qui font ça.
C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup, mais effectivement.
Amy Belle-Rose, la relation que vous avez avec les policiers, est-ce que les policiers sont compréhensifs à votre égard? Est-ce qu'ils essayent de vous aider? Je suppose que toi, tu as eu de l'interaction avec eux, mais mettons tes collègues.
Il y a comme un genre de groupes qui sont là pour, au niveau des policiers, qui sont là pour les filles qui sont victimes d'exploitation ou qui ont des problèmes. Si on a des plaintes à faire contre un client, on peut comme les contacter. Donc oui, de ce côté-là, on a une belle relation. Il y a aussi le PIPQ qui collabore avec les enquêteurs justement du service de police de Québec.
Okay. Puis pour ce qui est des filles qui sont, exemple, dans la rue, qui sont sous le joug de Pim, puis il y a la maison de Marthe aussi qui est là pour les aider.
OK, ça, je la connais pas,
cette maison. C'est une excellente maison. Là, pour la maison de Marthe, c'est assez facile à trouver sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu la chance, en tant que gars, d'aller visiter cette maison-là parce qu'on ramassait des fonds pour la maison de Marthe à ce moment-là. J'ai rencontré les filles qui étaient là, puis sont dans une atmosphère hyper sécurisée, sont très conscientes des démarches qu'elles devront faire pour se sortir du milieu où elles étaient. Il y avait de l'air à l'avoir un peu plus rough, là, très honnêtement. Là. Puis c'était une maison où on ne pouvait pas l'identifier, là, où est-ce qu'elle était. T'sais.
OK, je comprends.
C'est super bien sécurisé. Donc, pour les gens qui sont sous le joug d'individus un peu louches, bien, la maison de Marthe est là pour aider ces jeunes femmes-là. Puis la madame qui s'occupe de ça, c'est une madame tout à fait formidable.
Non, non, mais il y a vraiment des... On est chanceux parce que dans la région, il y a beaucoup de belles ressources. Puis on leur avait déjà parlé aussi. Amy, merci d'avoir pris le temps d'être venue en studio, de nous avoir jasé. Je trouve ça le fun parce qu'il y a des questions qui sont venues d'auditeurs. Fait que tu vois que ça suscite vraiment une curiosité
comprendre. Super, merci pour l'invitation.
Bien, écoute, merci à toi d'avoir pris le temps. Vous allez retrouver cette entrevue-là, évidemment, sur le blvd.fm, sur la chaîne YouTube aussi de Boulevard.
Amy Belle-Rose, merci.
Merci à vous. Bye bye. Bonne journée.
Passe une belle journée. 10h58, on s'arrête.
Avant la fin de l'automne, je vais passer une dernière fête.
11h02, vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. Vous êtes sur les ondes de Boulevard. Mon nom, c'est Marceau. Son nom, elle, c'est Audrey Pinchot. Merci d'être là. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Merci de nous transmettre l'information par texto. OK, prochain sujet. Ah, ça, j'aime ce genre de sujet-là. T'aimes-tu ça, tous les sujets insolites, pardon, les enquêtes policières?
Ah, totalement.
Les histoires de meurtre.
Oh, oui, tout ce qui est true crime, tout ce qui est mystérieux, en fait. Là, qui n'aime pas ça?
Ben oui, puis il y a une personnalité publique qui a pris de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux dans les dernières années, qui nous parlait justement d'histoires de true crime, puis qui a fait sa propre place dans ce merveilleux univers. Puis elle a écrit un autre livre, elle s'appelle Victoria Charlton. Son nouveau livre, c'est La nuit de ta disparition. On a le plaisir de l'avoir au bout du fil. Salut Victoria!
Allô, ça va bien?
Bien, je me demande des fois... Oui, ça va bien, mais je me demande des fois si tu fais des cauchemars avec toutes les histoires que t'as en tête.
Hey, étonnamment, là, j'ai pas peur de tueurs ou d'esprits. J'ai peur des rats, des souris, des araignées.
C'est bon, ça.
Mais avec toutes les histoires que t'as en tête, là, ça t'arrive jamais de penser, je sais pas, quand tu te promènes dans la rue, que tu pourrais croiser un de ces individus-là. Hier, on parlait de Wade Wilson, qui est un phénomène aux États-Unis, un genre de psychopathe qui a tué deux femmes. Puis la deuxième, ben, il voulait tellement être sûr de la tuer qu'il a roulé entre 10 et 20 fois sur elle avec un véhicule. Le gars se ramasse en cour, puis devient un véritable phénomène. Les femmes tombent en amour avec cet individu-là. Je me dis, le monde est tombé sur la tête.
Ah oui, c'est ça. Ben, tu sais, moi, ce qui m'arrive, là, maintenant, je vais rouler là, sur l'autoroute. Là, je vois une voiture de stationner sur l'autoroute, sur l'accotement. C'est bizarre. Je vais regarder l'heure. Je vais dire, admettons là, que ça sert à quelque chose dans une histoire de meurtre ou de disparition. T'sais. Imagine qu'on retrouve un corps là. Ben, moi, je vais m'en rappeler là, de ce gars-là.
T'as la tête qui est un peu partout par rapport à ça. Les gens te connaissent, Victoria, parce qu'il faut dire que tu as fait beaucoup ta place sur les réseaux sociaux. Tu sais, 731 000 abonnés sur YouTube, 167 000 sur Instagram. Tu as une grosse crowd qui est en France, une bonne partie au Québec aussi. Tu as déjà écrit des tomes, Gardez l'œil ouvert, bon, il y a quelques années. Et là, tu as écrit un livre avec Alexandre Soublière. Et là, c'est comme la partie 2 de ce que je comprends de ce livre-là que tu sors aujourd'hui.
Oui, en fait, c'est pour les enquêtes de McKinsey, j'ai deux tomes, c'est de la fiction, là. Bah, presque à 100%. Là, on est au tome 2 avec la nuit de sa disparition. Ce qui est cool pour les amateurs de true crime, c'est qu'il y a beaucoup de références à des vrais cas dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, ou des cas très populaires au Québec, aux États-Unis. Fait qu'on reste dans le true crime, mais c'est de la fiction. T'sais, le personnage principal, c'est une animatrice de podcast de true crime. Fait que on est vraiment, on baigne là-dedans. Puis avec la nuit de sa disparition, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit vraiment une disparition, donc du moment avant la disparition, le moment de la disparition de la victime, qui est une jeune femme dans la vingtaine, là, Florence, qu'elle s'appelle. Elle disparaît en Beauce. Ensuite, on va faire des battues. Ensuite, ça va prendre une vraie tournure, un cirque médiatique, sa disparition. Fait que je trouve ça intéressant de l'illustrer.
Ce qui est trippant aussi, c'est que ça se passe chez nous. Fait qu'on a comme une impression qu'on est attaché un peu à l'environnement. C'est un livre, en fait, qui est aussi pour les plus jeunes. Est-ce que c'est un peu dans votre objectif quand vous écrivez? Parce qu'on sait que la lecture est peut-être un peu moins populaire que les écrans.
Ouais, mais moi, je dis pas que c'est pour les plus jeunes. Là. Je dis, tu sais, entre 20 et 40 ans, tu vas vraiment apprécier ça. Tu sais, ça se lit super bien. Tu sais, c'est sûr que Mackenzie, le personnage principal, elle a 30 ans. Mais par exemple, ma sœur, qui est zéro une lectrice, elle dit, ton livre, là, c'est le seul que je lis, parce qu'effectivement, ça se lit super bien. C'est rapide. C'est un page-turner, là, qu'on appelle.
Tu as co-écrit ce livre-là avec un scénariste, Alexandre Soublière. En quoi t'as-t-il aidé à écrire ce livre-là?
Mais Alexandre, c'est un très bon auteur. Là. Moi, j'étais fan de lui, même avant qu'on commence à travailler ensemble. Il est très bon pour camper une atmosphère, pour créer une ambiance, pour décrire des lieux. Tu sais, ça se passe en Beauce, l'histoire, puis lui, il vient de la Beauce. Fait que vraiment, les gens qui connaissent la Beauce vont reconnaître les lieux qu'on décrit dans le livre. Puis moi, mes forces, c'est plutôt les dialogues ou les monologues au jeu, quand Mackenzie parle. C'est vraiment ça, c'est ce que j'aime faire. Fait que le mélange des deux, je trouve que ça donne un excellent résultat. On voit pas nécessairement qui écrit quoi, là. Tu sais, c'est pas très divisé. Mais justement, avec nos forces et nos faiblesses, là, ça se complète bien.
Puis comment on écrit un livre à deux? Tu écris ta petite portion, après ça, tu y envoies, il écrit d'autres choses, ouais. Après ça, tu le revis. Ça doit être compliqué parfois.
Pas mal. On a fait un plan à deux. Là. Chaque chapitre, on savait où ça s'en allait.
Okay.
Fait que, par exemple, Alexandre va écrire le squelette là, très rough, là, comme on dit. Là, vraiment, une version 1, il m'envoie ça. Là. Moi, je rajoute, je peaufine, j'y renvoie. On doit avoir 10 versions d'un chapitre. Là.
Pour les gens qui te connaissent peut-être pas, Victoria, les tomes 1, 2, 3 de Garder l'œil ouvert, c'est quoi le principe de ces livres-là?
Oui, plusieurs histoires de disparition ou de meurtre résolues et irrésolues. Fait que moi, sur ma chaîne, c'est ça que je fais. Sur ma chaîne YouTube, je raconte les histoires de meurtre, de disparition. Donc, dans mes livres de Garder l'œil ouvert, c'est la même chose. Parfois, je vais être en contact avec les familles. Parfois, je vais prendre une histoire un peu moins médiatisée. Je vais essayer de la rendre plus intéressante, la compléter, faire des recherches. Fait que, c'est ça, je raconte plusieurs histoires. C'est mon chum, il lit, évidemment. Puis, moi, je lis une histoire par bain. Fait que ça se lit très bien aussi. Là.
C'est fun.
Ton chum prend des bains?
Ah oui, il en prend ça, 2-3 fois par jour même.
Ah ouais.
Pour ceux qui ne savent pas, Bob le chef et le dit chum.
Eh oui. Normalement, les chefs, ça travaille fort, ça n'a pas le temps de prendre des bains, ça.
Il prend le temps.
Ouais. Hey Victoria, ça a été un plaisir. Je sais que tu étais beaucoup occupée aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'entrevue.
Bien, pareillement. Merci à vous deux.
Au revoir.
Bonne
bye-bye. Victoria Charlton, qui est auteur, qui a écrit un livre, La nuit de ta disparition, avec son collègue Alexandre Soublière, qui est un scénariste. Très hâte de lire ce livre-là.
Mais honnêtement, elle fait vraiment du beau travail parce qu'on l'a déjà eu en entrevue, puis de ce que je me souviens, tout ça est parti vraiment par passion. Là. Sa chaîne YouTube, elle a comme été dans les premières créatrices de contenu qui faisait énormément, justement, de son contenu true crime-là sur Internet, puis je veux dire, le trophée lui revient au Québec. Là, elle est la référence quand on parle de true crime. Puis, tu sais, elle a bâti sa crédibilité en faisant des grosses recherches, là, en parlant avec des journalistes, en rencontrant les familles. Puis avec le temps, bien, c'est ça. Ça fait en sorte qu'elle était capable de se faire une super belle place. Les gens lui font confiance. Elle est fun à suivre sur les réseaux sociaux. Puis je trouve ça cool que ça se traduise par la lecture maintenant. Tu sais, fait que La nuit de ta disparition qui se retrouve trouve pas mal partout. Là.
En librairie, aujourd'hui, les amis. On est-tu sacoche? On est sacoche. Le hockey des remparts de Québec est de retour au Centre Vidéotron pour la nouvelle saison. On avait bien hâte. Puis grâce à Boulevard 101, vous pourriez gagner une paire de billets de saison pour aller encourager votre équipe préférée. Puis à ça, ben, toute la gang, on ajoute le kit fan numéro 1 qui va comprendre les casquettes, les mêmes mousses, les sacs de sport, les cordons et les rondelles. Ça inclut 32 matchs aussi à domicile. Donc, la poursuite de la rivalité contre Shawinigan, notre espoir de gagner contre Rimouski et Chicoutimi, le populaire match Rock Boulevard 102 avec, qui va arriver peut-être dans quelques semaines, quelques mois, je n'ai pas la date exacte, et même vos sièges réservés en cas de présence en série éliminatoire, c'est-tu pas beau ça les amis? Donc pour participer, vous avez juste à aller inscrire le score fictif que je vais vous donner à l'instant sur le blvd.fm. Vous tapez 12 à 4 contre les Sags de Chicoutimi, 12 à 4 contre les Sags de Chicoutimi. Puis le gagnant va être annoncé dans Gravel dans le retour ce vendredi. Donc, bonne chance à tout le monde.
Ce segment d'émission présenté par...
11h16 minutes. Oh boy! C'est possible de mourir de vieillesse à 40 ans?
Je ne crois pas. Je ne crois pas.
Il m'en reste encore un bout à faire.
C'est parce que t'aimerais ça ou c'est parce que t'as mal?
Non, je sais pas.
C'est juste que je m'inquiète pas.
Je vais-tu commencer à faire comme les vieux en disant « c'est l'humidité
». T'as-tu commencé, Yann, à relever tes culottes quand tu t'assisais?
Quand je m'assois, non.
Tu comprends-tu ce que je veux dire?
Ce que j'ai commencé depuis 5-6 ans, certains, là, c'est vraiment quand je me lève le matin. On dirait que l'huile n'est pas encore rendue dans les chevilles, fait que c'est des petits pas, c'est tout.
Ah oh, ouais, hein?
Ouais, puis les petites douleurs, mettons, le lendemain... T'as
reculé-tu ta face pour lire de quoi?
Le lendemain d'une game de hockey sur glace, les petits maux de dos dans le bas du dos, mais ça dure une journée, tout simplement. Là, les lunettes au bout du nez, ça... Non, j'ai pas ça, je porte pas de lunettes. J'ai une vision à 100%.
Impeccable.
Impeccable.
T'es chanceux.
Ouais.
Très chanceux.
Un gars de même, mais là, il faut que je sois en forme, là. C'est quand le gala de lutte, là?
C'est dans deux jours.
C'est bien de la lutte, hein?
C'est... Oui, c'est de la lutte.
Okay.
C'est de la lutte. J'espère que tu es prêt pour ça parce que c'est un autre sport en tête. On est loin d'être prêt.
Ben là, moi, je me suis entraîné avec des athlètes en MMA, en okay. Martial Art. Graffiner les yeux, étrangler, des coups d'un couille.
OK.
Ça, c'est puis du Krav Maga aussi, donc des coups directement dans la gorge.
Ouais, je suis pas sûr que tu as tout compris.
Ou ta pomme d'Adam.
Mm-hmm.
Les gens vont dire quoi?
Pas de pomme d'Adam, je pense. Je veux pas te...
Hey, en 2024, on présume de rien.
Hey, okay. Je me suis touchée! Pour être sûr! On a toute une pomme d'Adam en passant, là.
Ouais,
juste moins comme grosse.
Ben, tu sais quoi? Je pensais pas que tu avais une pomme d'Adam.
Hey, voyons, tout le monde a une pomme d'Adam.
Je l'ai appris, une femme sur TikTok. Attends, là, faut pas que je me mêle. Ouais, c'est ça. C'est une femme sur TikTok qui, elle, avait un processus de changement de sexe. C'est rare qu'on voit des femmes qui veulent devenir des hommes, du moins au Québec, là. On a vu ça aux États-Unis, une actrice, entre autres, qui est devenue un homme et tout ça. Mais la fille racontait qu'elle a dû prendre de la testostérone.
Okay.
Puis avec la testostérone, ben nécessairement, le poil a commencé à sortir.
Oui.
Puis après ça, ben sa pomme d'Adam a commencé à être plus prononcée.
La voix devient plus grave.
La petite moustache qui arrive. Puis après ça, elle a dit, bon, finalement, c'est pas pour moi, ça me rend malade. Ça,
elle a détransitionné.
Elle a détransitionné. D'ailleurs, je pense que je t'avais envoyé la vidéo. Puis c'est ça, elle avait une pomme d'Adam. Mais je pensais pas que les filles, ça pouvait être aussi prononcé si vous preniez du stock comme de la testostérone.
Mais c'est parce que là, la physionomie change, je veux pas, là, quand tu prends ça. C'est en grande quantité là, pour forcer ton corps à changer. Là. Fait que ça te développe une carrure, la mâchoire souvent qui va avancer un peu aussi. Il y a des traits physiques qui restent. Là. Fait que même si elle a détransitionné, elle sera plus jamais la femme qu'elle était. Là.
Ouais. Sortir avec une fille qui peut te prendre dans ses bras. Tu peux-tu prendre petit chum dans tes bras?
Ben là, dans mes bras, non.
Mettons le prendre comme une mariée, là, quand tu rentres dans la maison, tu peux pas.
Non. Par exemple, je suis capable de le lever sur mon dos. J'ai pris Denis sur mon dos. Fait que je suis capable de squatter mon chum,
c'est sûr. Denis, t'as quoi, 2,15, 2,20?
Il est à 2,30.
OK, gros goré, il est à 2,40, 2,45. Là, le gars contre qui je vais me battre vendredi soir, 245.
Je sais pas, je pense que ma limite, c'est à 230. Denis, je souffrais, là.
Ouais. Tu penses que je serais capable de le lever?
Denis?
Non, gros goré.
Petit goré, c'est vrai, tu l'appelles gros goré, il m'aimera pas, là. Ben oui.
Je suis pas sûr que je serais capable de le lever au bout de mes bras.
Mais pas à fret. Je pense qu'avec des techniques, parce que c'est des techniques d'acrobatie qui font que tu peux le passer par-dessus ta tête, la réponse est oui.
Ouais, je pense que je vais essayer de l'étrangler, ça va être plus simple.
Plus simple. Je pense pas que le monde va t'aimer si tu y vas avec la violence, pas juste
pourquoi?
Sur la lutte. Hein.
C'est ça. C'est quand le gala de lutte? C'est vendredi?
C'est vendredi. Ouais. Vendredi pour la bouchée généreuse. Il y aura un verre, deux verres, trois verres, dépendant de ce que vous voulez.
Je vais essayer de pas choquer.
Ouais, il faut pas. Imagine-tu, Yannick Marceau.
Hey, j'étais un père de famille, moi, là. J'ai des enfants.
Tu t'es mis dans la merde et là, on a gravité autour de toi. Moi, je suis ton agente depuis deux semaines à gérer tout ce qui gravite autour puis essayer de t'aider.
Mais les gars, ils ont-tu une game de hockey vendredi?
T'as des commanditaires qui ont embarqué, des gens qui ont ont donné de l'argent à la bouchée généreuse. Le monde choisisse ton nom, ses réseaux sociaux. T'as un costume. Tu peux pas reculer, là.
Je vais être là.
Ben oui, tu vas être là, voyons. Il va y avoir un band en passant, Big Muff, qui reprenne les plus grands classiques 90-2000 du rock. Ça va être solide comme ambiance, vraiment. On est déjà à quoi, 300?
J'ai parlé avec un représentant de la NSPW hier. On est autour de 315-320.
Mais tu sais, ça va bien. Il y a encore de la place en passant. Oui. Si vous voulez lien, écrivez-moi le 971-101. Je vais vous le transférer direct. Mais point de vente, vous allez le trouver en écrivant NSPW. Là.
C'est ça. Lepointdevente.com, NSPW, c'est le gala Luttons contre la faim. On veut ramasser au moins 10 000 $ là, pour les enfants qui vont se nourrir là, à la bouchée généreuse. Là. Fait qu'aidez-nous et venez passer une super belle soirée.
Là, ton nom est en finale. Le savais-tu?
Ben oui.
C'est la finale aujourd'hui. Donc, je vais juste être sûr que tu suives la game. Là. Aujourd'hui, c'est la grande finale, ce qui fait que vous avez deux endroits où voter. Le Instagram de Boulevard 102.1, comme depuis deux semaines. Mais là, aujourd'hui, on vous fait voter aussi sur Facebook pour gagner 4 billets VIP. Évidemment, si vous les gagnez, vous ne dépensez pas une scène. Si jamais vous voulez faire un don pour la boucherie, on est très partant, mais on vous les offre, ces 4 billets-là. Fait que si vous voulez passer, la seule façon de les avoir, c'est simple, c'est de voter pour le meilleur nom de lutteur à Yann. Et il y a deux options aujourd'hui en finale. Le Marceau Pilami, ce que je trouve quand même cocasse et charmant. Et mon préféré, personnellement, Marceau Polo. Puis je vais faire du lobbying jusqu'à la fin. Il faut que ça soit Marceau Polo.
Il va falloir que je sois sur le ring, puis avant de frapper Gros Goré, je vais dire Marceau Polo. Je suis posé de parler à midi avec Gros Goré.
Pour vrai?
Il va se présenter à la station.
Est-ce qu'il y avait pas de poignée, mettons? Ça...
C'est son problème.
J'espère que l'organisme que vous avez choisi va passer avant vos bébelles personnelles.
Oui, mais c'est son problème. La dernière fois, Denis Gravel était chargé de me protéger, puis il a pas fait ça pantoute. Là.
Non.
Puis il s'est approché de moi. Là, ça va être vers les entours de 11h40, 11h45 que Pascal CV m'a dit. On attend Gros Goré en studio.
Ah, mais vous irez sur le Twitch, ça risque d'être divertissant. Présentement, Marceau Polo gagne à 61% sur Instagram. Et sur Facebook, c'est 165 votes contre 130 pour Marceau Polo aussi. Fait que si vous aimez mieux Marceau Pilami, ben allez voter et vous courez la chance de gagner ces 4 billets-là VIP pour la soirée de vendredi.
11h22, les amis, on va se laisser juste avant le Rouge et Or qui affronte les Stingers de l'Université de Concordia au stade TELUS. C'est chez nous, ça. C'est le 29 septembre à 13h. Et qui dit match de football dit tailgate. Max va être là pour vous faire des pogos, vous donner des grignotines avec toute son équipe. Je pense qu'Audrey va être encore là, rien d'autre à faire.
Oui,
la fin de semaine, pas encore d'enfant.
Oui, mais l'affaire, c'est que moi, j'aime mon monde, Yann. Je suis présente pour la station. Tu sais, comme toi, t'es là, toutes les tailgates.
Ouais, des cartes. Je suis là en pensée. Carte cadeau de Laurier Québec, entre autres, une carte cadeau à gagner de 1 000 $. Comment faire pour gagner cette carte cadeau-là? C'est assez simple. Vous vous présentez au kiosque, puis on va vous donner un mot de passe, un indice au kiosque. Et ensuite, ben, vous avez juste à être à l'écoute des émissions le lundi suivant pour devenir finaliste. Donc, pour acheter vos billets pour ce dimanche, c'est rogeor.ulaval.ca. Et sinon, ben, Audrey vous voit au tailgate.
Oui, on va se voir là définitivement. Yann n'y sera pas. Posez-moi pas question, OK?
Hey, j'ai un combat vendredi. Là.
Oui, va voir, tu te reposes.
C'est ça. Puis, Yann. Est-ce que je remercie mes commanditaires? Passion Informatique, 100$, T-shirt et Image Express sur la côte de la Pente Douce, Pèlerin Inspection, inspecteur en bâtiment, super de belle entreprise, 500$, 7e ciel qui est là, 1 000$ de mon chum Simon Laberge, expert finition 2020 qui embarque dans l'aventure, 100$, David de Beaupré qui lui nous donne 100$, donc un gros merci. Fait que ça va être un genre de presque 2 000$ de commandite aussi.
C'est très hot.
Qu'on va ajouter pour mon
faut petit qu'on skip, parce que Pascal va être fâché. Là.
OK, bye-bye!
Ben, à demain!
À demain!
Salut!